Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la Commission Jeunes pour parler de votre étude Pronecmo, qui vise à comparer l'impact du décubitus ventral chez les patients sous ECMO veno-veineuse. Notre première question, du coup, est quel est le rationnel de cette étude?
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Le rationnel, il est assez simple. On connaît tous les effets bénéfiques du décubitus ventral dans le SDRA sévère. Et pour les malades les plus graves, qui sont réfractaires à la ventilation mécanique, il y a la possibilité de mettre en place une ECMO veno-veineuse. Ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est une augmentation progressive de l'utilisation et de la combinaison de ces deux techniques, à savoir poursuivre le décubitus ventral sous ECMO veno-veineuse avec des données observationnelles jusqu'à présent qui étaient plutôt assez unanimes en faveur de l'utilisation du DV sous ECMO, avec notamment une accélération du sevrage de l'ECMO en combinant le DV et l'ECMO. Et puis il y avait même plusieurs études qui ont montré un impact potentiel sur la mortalité. Le problème, c'est que le niveau de preuve était quand même s'il y a pas mal d'études, ça reste que des études observationnelles avec évidemment des biais inhérents à ce genre de design, d'où cet essai randomisé sur le sujet.
Donc justement, au niveau de la méthodologie, quel type d'étude a été effectuée?
Donc c'est un essai randomisé, multicentrique, sur 14 réanimations françaises. La méthodologie, c'était de dire que le patient devait être... Les critères d'inclusion, c'était un patient sous ECMO veno-veineuse. Le fait de placer le malade sous ECMO veno-veineuse n'était pas protocolisé. En revanche, dès que le malade recevait une ECMO veno-veineuse, il devait être randomisé dans les 48 heures pour recevoir, s'il était randomisé dans le bras DV, il devait recevoir un minimum de 4 séances de décubitus ventral pendant les 16 premières heures, donc 4 fois 16 heures de décubitus ventral sous ECMO, donc un minimum de 4 séances. Les séances pouvaient être prolongées par la suite, mais c'était à la laissée au libre arbitre du clinicien. Et il y avait quand même des critères si le malade était randomisé dans le bras ECMO pour arrêter avant ces 4 séances, et en particulier si le malade s'améliorait et que l'ECMO pouvait être sevré dans les 4 premiers jours, ou alors si qu'il y avait une détérioration très rapide de la PaO2 sous ECMO. Donc quand même, on avait le droit d'arrêter les 4 séances de DV. Et l'autre bras, qui est dit le bras contrôle, c'était le bras je reste en décubitus dorsal sous ECMO pendant un maximum de 60 jours sans avoir recours au DV sous ECMO. Le critère de jugement principal, c'était le temps jusqu'à un sevrage avec succès de l'ECMO dans les 60 premiers jours suivant la randomisation. C'était un critère de jugement principal qui était assez pragmatique puisqu'on avait défini le succès d'un sevrage comme un malade qui survit sans ECMO, sans transplantation pulmonaire, pendant au moins 30 jours après avoir été sevré de l'ECMO. Donc ça, c'était un succès de sevrage. Et donc, ce critère de jugement principal a analysé deux événements compétitifs, qui étaient le fait d'échouer au sevrage. L'échec de sevrage, c'était le fait de recevoir une deuxième ECMO ou d'avoir été transplanté ou de mourir dans les 30 jours après le sevrage de l'ECMO. Et le deuxième critère de jugement compétitif, c'était la mort sous ECMO. Les patients qui étaient encore sous ECMO à J60 étaient à ce moment-là censurés.
Très bien. Et donc, quels sont les principaux résultats et les implications de cette étude en pratique courante?
Donc les résultats, c'est la randomisation de 170 malades, donc 86 dans le bras DV et 84 dans le bras supine, enfin, décubitus dorsal pendant 10 mois. Donc la randomisation a été très rapide. Une des particularités de cette étude, c'était que même si cette étude n'avait pas été créée pour la pandémie de Covid, Elle avait été le design avait été créé bien avant. Elle a démarré pendant la pandémie Covid, donc la randomisation a recruté, le laissé a recruter une très grande majorité de patients qui avaient une pneumonie Covid-19, puisque c'était 94% de ces patients. Une deuxième particularité, juste sur les caractéristiques des patients, c'est évidemment des patients qui étaient très graves et avec un P sur F en médiane à 65. Une des particularités, c'était que la quasi-totalité d'entre eux avaient reçu des décubitus ventrales avant la mise en place de l'ECMO, c'est-à-dire plus de 96%, et 94% avaient reçu aussi des curares en continu avant la mise en place de l'ECMO. Donc le premier point qu'on peut dire, c'est que l'intervention, elle a été correctement réalisée, puisque tous les patients qui étaient randomisés dans le bras DV ont bien été mis en décubitus ventral, et que 80% d'entre eux ont reçu au moins 4 sessions de décubitus ventral. Les 20% restants qui n'avaient pas eu la totalité des 4 sessions qui étaient protocolisées, c'était principalement parce qu'ils s'étaient améliorés, et que la compliance s'était améliorée, l'oxygénation s'était améliorée, ce qui avait permis le sevrage précoce. En ce qui concerne donc le critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes, avec un taux de sevrage de l'ECMO avec succès dans les 60 premiers jours, qui était 44,2% dans le bras DV et 44% dans le bras décubitus ventral, dorsal, pardon, avec donc aucune différence significative en ce qui concerne ce critère de jugement principal. Les critères de compétitif, jugement compétitif n'étaient également pas différents, puisque la mortalité était 37% dans le bras DV versus 36,9% dans le bras supine. De même pour l'échec de sevrage de l'ECMO, il n'y avait pas de différence entre ces deux groupes. Donc ça, c'est ce qui concerne le critère de jugement principal. Le critère de jugement secondaire, il y en avait pas mal, on va pas tous les énumérer, mais il n'y avait aucune différence entre les deux groupes, que ce soit pour le nombre de pneumothorax, le nombre de pneumonies associées à la ventilation mécanique, la mortalité à J90, la durée d'ECMO, la durée de ventilation, la durée de séjour en réanimation. Tout ça, il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes. En ce qui concerne l'analyse en sous-groupe, l'analyse de sensibilité en sous-groupe, de même, pas de différence entre les deux bras. Si on regardait, on coupait la population au niveau par rapport à la compliance du système respiratoire, il n'y avait pas de différence pour ceux qui avaient une compliance supérieure à 20 ou inférieure à 20. De même, pas de différence chez les malades qui avaient un BMI supérieur à 33 ou inférieur à 33. Et pas de différence également au regard de l'expérience du centre qui avait randomisé le patient. Malheureusement, il y a deux analyses de sous-groupe qu'on n'a pas pu faire, qui étaient des analyses de sous-groupe prévues, qui étaient en particulier regarder s'il y avait une différence entre les Covid et les non-Covid. Mais il y avait très très peu de non-Covid. Ça a été impossible de faire cette analyse. De même, on avait planifié de faire une analyse en sous-groupe malades qui avaient reçu du DV avant la mise en place de l'ECMO versus ceux qui n'en avaient pas reçu. Et encore une fois, il n'y avait que 3% de malades qui n'avaient pas reçu de DV avant la mise en place de l'ECMO, ce qui rendait impossible cette analyse de sous-groupe. En termes de safety et de secondaire, il y avait significativement plus d'arrêts cardiaques dans le groupe des décubitus. Par contre, il n'y avait aucun événement indésirable grave, à savoir une accidentelle, une extubation accidentelle dans les deux bras. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'effet secondaire associé à la mise en place du décubitus ventral sous ECMO. La conclusion de cette étude, de cet essai randomisé, c'est de dire que parmi les patients qui avaient un SDRA sévère sous ECMO veno-veineuse, le fait de mettre en DV sous ECMO ne réduisait pas, n'accélérait pas le sevrage avec succès de l'ECMO. Quelle implication pour la pratique clinique? Bah, ça met quand même un frein quand même sur l'utilisation probablement du décubitus ventral sous ECMO, malgré l'abondance des études observationnelles qui allaient tous dans le même sens. Néanmoins, il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'étiologie a influencé ces résultats, en particulier le fait d'avoir un SDRA Covid, et on sait que les SDRA Covid sous ECMO, c'est des malades qui vont avoir des durées d'ECMO extrêmement longues, des durées de séjour en réanimation et de ventilation mécanique qui sont très longues. Alors, si même si l'intervention elle est très précoce, sous la mise en, la mise sous, lors de la mise sous ECMO, c'est dans les premiers jours, étant donné que la moyenne de durée d'ECMO était de l'ordre de 27 jours, on peut se dire qu'entre l'intervention des 4 premiers jours et le sevrage de l'ECMO qui intervient quasiment un mois après, il y a beaucoup de temps pour qu'il se passe pas mal de choses, des pneumonies acquises sous ventilation mécanique, d'autres problèmes. Et donc, ça a peut-être influencé ces résultats négatifs, enfin, neutres. Voilà, l'idée peut-être de refaire un essai, cette fois-ci sur une population non Covid. Et puis, la question sous-jacente, c'est aussi de se dire que quand on fait de la ventilation dite ultra-protectrice avec des petits volumes, est-ce que le fait de faire du décubitus ventral a un intérêt, puisqu'il y a globalement peu de volume à mobiliser et donc peu de recrutement potentiel. Voilà, c'est les questions qui restent en suspens et qui pourront être répondues peut-être avec un nouvel essai, cette fois-ci plus ciblé sur une population non Covid. Donc les implications pour la pratique clinique, un, c'est probablement à modérer et probablement qu'il ne faut pas faire du décubitus ventral chez tout le monde sous ECMO. Et peut-être à individualiser les patients qui pourraient peut-être en bénéficier. En tout cas, dans la pathologie, dans la pneumonie Covid, l'essai randomisé permet quand même de dire que ça n'a pas grand intérêt, même si ça reste une intervention qui est tout à fait safe.
Très bien, merci beaucoup pour ces réponses claires et pour votre participation.
Merci.